a dit c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.
Bonjour à tous et à toutes, RLPciens et RLPciennes. Devant l'idiocratie, un espoir renaît toujours et encore, l'alternative.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
On a deux invités aujourd'hui. Bonjour à vous deux, Malou.
Bonjour.
Et Vincent.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez en deux, trois mots faire une petite présentation rapide de vous?
Donc moi je suis Malou, je travaille à mi-temps entre l'école primaire alternative des Girafons à Champ-Romain et le collège alternatif des Ricochets à Saint-Pierre-de-Frugy. Et voilà, j'y anime pour les Girafons des ateliers comme l'éducation émotionnelle, le théâtre. Et puis au sein du collège Les Ricochets, je suis coordinatrice, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure.
D'accord. Vincent, rebonjour.
Rebonjour. Alors moi, je suis Vincent, je suis un nouvel habitant du Croissant Fertile. Je suis en transition, la vraie transition, c'est-à-dire que j'avais un statut, j'étais chef d'entreprise, et là, j'habite sur un écolieu. Donc j'avais une des entreprises qui continuent à travailler, et j'ai pris armes et bagages, et je me suis installé dans ce beau pays qui est le Périgord vert.
D'accord. Rapidos, c'est quoi le... Il y a un nom à l'écolieu ou pas?
C'est le Croissant Fertile.
Le Croissant Fertile.
Le D'accord. Croissant Fertile.
Ça se passe bien dans cet écolieu?
Ça se passe très bien.
Ok. Vous prenez des décisions collectives et tout ça?
C'est ça. On prend des décisions collectives, on en discute, on a un temps commun le vendredi. On reçoit à peu près 500 personnes par an pour... un coup en sauvage en nous, un coup expulsation. On est surtout sur deux choses, sur l'habitat léger et sa promotion. Et le deuxième, c'est la gradation des sols. Voilà.
Merci pour cette explication, Vincent. Malou, on va se pencher un petit peu plus sur ton parcours. Tu es à l'origine de deux écoles. Tu es à l'origine de la création des Girafons.
Alors, je vais dire nous, parce que tout ça, ce sont des histoires de collectif.
De groupe.
Donc, tu veux que je raconte un peu ça?
Je ne sais pas ce que tu veux. C'est toi qui parles de ce que tu veux, là.
L'idée, c'est de partager un peu mon parcours, c'est ça?
Ouais, de comprendre comment tu en arrives à avoir créé ces deux écoles.
Je pense que dans les choses qui ont été fondatrices pour moi, il y a eu particulièrement, quand j'étais à l'école primaire, une année de vie partagée avec une instite qui était formée Freinet et qui a été la première, qui s'appelait Colette, qui a été la première à nous emmener dehors. La première à me faire participer à des conseils de jeunes, à participer à la rédaction d'un journal qu'on imprimait là, dans une espèce de machine qu'on tournait, qui sentait très bon. voilà, je pense que...
Mais les outils Freinet, on reconnaît bien les outils Freinet.
Ouais, ça a été quelque chose d'assez révolutionnaire pour moi. Et puis ensuite, le collège, c'était catastrophique, très violent. J'ai eu vraiment l'impression d'entrer de découvrir le reste du monde avec toute sa part noire. Et puis, chez moi, chez mes parents, il y avait pas mal de bouquins type « Libres enfants » de Summerhill. Et puis beaucoup déjà de réflexions et de temps partagé en famille, ce qu'on appellerait aujourd'hui des conseils de famille, mais qui n'avaient pas ce nom-là à l'époque. Prendre le Télérama le dimanche soir et regarder ensemble et se dire qu'est-ce qu'on...
Et donc tes parents, ils étaient déjà plongés dans ce monde-là de l'alternatif ou...
Oui, ils avaient eux-mêmes, ce que tu décris Vincent, mes parents ils l'ont fait dans les années 70.
D'accord.
Donc ils ont tous les deux quitté leur boulot et ils ont, un peu caricatural, mais ça n'a pas été vécu comme une caricature, c'était un vrai engagement, ils ont fait du fromage de chef, hein. C'était une maison très ouverte où il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à faire déjà autrement. Et puis après, à partir du lycée, j'ai passé mon BAFA et je me suis rapidement questionnée. Et puis après, j'ai fait un IUT en animation socioculturelle et je suis allée faire tous mes stages dans des écoles alternatives. Par exemple, à Bonaventure, qui était une école alternative fondée par la Fédération anarchiste et qui était très inspirante, une école alternative collège primaire sur l'île d'Oléron, où voilà, il y avait vraiment eu tout un travail de fond autour de la parole des enfants, autour du sens de à quoi ça sert et pourquoi on est là. Et puis ensuite, je suis aussi allée faire un stage dans une école Freinet au Sénégal pendant 2 mois.
Et est-ce que ça se passe pareil ?
Ce qui se passe pareil, je pense, c'est l'intention de fond. Ce qui se passe différemment, évidemment, c'est les moyens. C'est-à-dire que dans l'école Freinet dans laquelle j'étais, ben, ils étaient quand même 4 par chaise, enfin 4 par banc pour 2. Néanmoins, le fait du cercle, dans le sens du vivre ensemble, du réfléchir ensemble, d'avoir le droit à la parole pour co-construire la vie de l'école, et puis le fait de faire avec ses mains, de sortir dehors, ça c'est des points d'appui que j'ai retrouvés aussi là-bas.
D'accord. Et ton rôle à l'intérieur de l'école ? Alors, tu as commencé à en parler, tu fais des ateliers.
À l'heure actuelle ?
À l'intérieur, oui, des deux d'ailleurs écoles, parce que quand je t'ai rencontré, tu étais au Girafon, tu intervenais là-bas.
Oui.
Et la deuxième rencontre s'est faite au Ricochet, donc qui est un collège. Le Girafon, c'est une école primaire.
Alors, ce que je peux ajouter, c'est que le groupe d'amis avec lequel on a monté l'école des Girafons, on a fait la formation Faber et Maslisch, qui est une formation qui vient du Québec et qui met en lumière une autre façon de relationner avec les enfants. Et puis, on a poursuivi avec une formation en CNV, en communication non violente, qui a été vraiment là le moteur, la base du démarrage de l'école des Girafons. Voilà, donc de ça, par exemple, est né de façon très directe ce qu'on appelle au Girafon l'éducation émotionnelle, qui est un atelier que les enfants ont toutes les semaines à partir de 3 ans jusqu'au l'équivalent CM2, puisque chez nous, il n'y a pas de nom de classe comme ça. Et ces ateliers consistent à apprendre pendant toutes ces années-là, à la fois à sentir tout un travail de jeu autour des émotions, autour de nos besoins, autour de nos ressentis.
Qu'est-ce que tu gères d'autre dans les écoles ? Est-ce que tu gères de l'administratif ? J'ai eu écho que vous faisiez de la formation auprès des parents.
Et en tout cas, les premières années, avec le noyau de fondateurs, fondatrices, on portait vraiment ce qui ensuite est devenu un poste salarié, le poste de marinette d'administratrice, coordinatrice. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de remplacements. Et puis, globalement, quand même, j'ai surtout travaillé, et je travaille surtout autour de l'éducation émotionnelle, du théâtre, les ateliers d'écriture. Mmh. Disons, qu'est-ce que c'est écrire ? Qu'est-ce que c'est la joie d'écrire ?
Et toi, tu gères tous ces ateliers-là ?
Oui.
Le cadre, donc, tu as souvent cité, c'est une asso, c'est pas une entreprise ?
Non, c'est une association, loi 1901. Les deux sont loi 1901, et puis les Girafons ont la particularité depuis peu, je crois que c'est 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, d'être passés en direction collégiale.
Alors, on a un parent avec nous, Vincent. Est-ce qu'il y a une implication dans la structure ? Je prends l'exemple des Girafons, où il y a du ménage, où il y a la garde des temps hors scolaire.
Alors, moi, je fais partie de la cellule communication pour avoir plus de parents.
Il y a une cellule.
Une cellule, il y a des cellules.
Quand tu le dis.
Des cercles, on va dire un cercle. On a un cercle de communication qui va nous permettre de prendre appui sur l'organisation des Ricochets, tout simplement, pour s'instruire, quoi, pour s'éduquer.
Et là, du coup, est-ce que l'école est à l'équilibre ? On va parler un peu du coût, mais le financement avant. Comment c'est financé et est-ce que l'école, elle est à l'équilibre ?
Alors, comment c'est financé ? Comme toutes les écoles alternatives de France, c'est financé par les parents. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'autres pays comme en Hollande, en Suède,
d'accord,
en France, les subsides sont donnés à l'éducation nationale et aux écoles catholiques. Mais quand nous sommes une école alternative, nous n'avons aucune aide de l'éducation nationale. Donc, ça nécessite, comme tu viens de le dire, Vincent, du bénévolat à rallonge. Toutes les familles qui sont là, on est plutôt sur des familles avec des revenus plutôt bas, plutôt moyens ou bas, pour la plupart d'entre elles. Et on est sur des familles qui ont envie de faire un choix fort. Et ce choix fort, il passe par un paiement mensuel de ce qu'on appelle un écolage. Qui est de 250 euros.
Pour tout le monde.
Pour le moment, pour tout le monde.
Il n'y a pas d'histoire de coefficient qui a.
Ça viendra. Ça viendra. Ouais. Ça a mis un certain nombre d'années au Girafon et ça viendra aussi au Ricochet. C'est un travail de fond à faire par une équipe. Ce n'est pas quelqu'un qui va décréter ça. Ce qu'on a décidé quand on a ouvert les Ricochets, c'est qu'on s'alignait sur le coût mensuel des Girafons à fond. Et aussi de l'école La Tourose, qui est l'école Montessori du village. Ouais, ouais. Et aussi l'école de la Lisière, qui est une école en forêt, qui sont un peu les trois écoles avec lesquelles on espère capter des CM2 qui deviendront nos sixièmes. Voilà.
Oui, d'ailleurs, c'est un point que je veux bien renvoyer à nos confrères périgourdins. Dans le nord d'Ordogne, on a quand même quatre écoles dites alternatives qui proposent un peu des axes de travail différents pour nos enfants. Il y a une niche chez nous. C'est intéressant,
en fait,
ça.
C'est pour la raison pour laquelle nous sommes arrivés, nous, en tant que famille. On était donc on était quatre, papa, maman et deux enfants. Les enfants, on les fait rentrer aussi dans le rêve et avec toutes les choses qu'ils vont apprendre, en fait. Et donc, du coup, on leur a dit, OK, nous, on transitionne, mais vous, on vous emmène et on va, vous allez avoir d'autres possibilités d'éducation. Bien sûr, l'éducation nationale, parce que ça, c'est le socle commun. Mais en plus, moi, tout ce que j'ai vu, c'est apprendre à apprendre. Moi, on m'a jamais appris à apprendre. J'ai appris à apprendre en université. Travailler avec une équipe.
Oui.
On nous apprend pendant 20 ans à dire « Ah bah c'est ma copie, tu copies pas, c'est pas bien, toi tu sais pas faire, etc. » Puis après, on vous projette dans une, dans une équipe et il faut travailler avec une équipe. Dans l'éducation nationale, on a des enfants qui apprennent à marcher, à apprendre une langue, à courir, à grimper aux arbres, à écrire, à plein de choses. Et quand on les prend 3 ans, 4 ans après, on leur dit « Alors l'école, tu l'aimes bien ?»« Non, j'aime pas l'école. » Alors que il y avait une foultitude de possibles.
Ouais, ouais. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Sur la sociologie du public, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Les enfants, ils viennent de quel milieu social, mais aussi ils viennent de quel milieu, on va dire, pas moral, mais on va dire éthique plutôt ?
On est en année 2, donc moi, ce que je peux dire par rapport à en Girafon, on est en année 8. Donc c'est pas forcément exactement les mêmes profils entre l'école primaire et le collège. En tout cas, globalement, on est plutôt avec des catégories socio-professionnelles plutôt basses, si on peut, je sais pas comment les nommer autrement. En tout cas, on est avec des personnes.
Pas pour Vincent, en tout cas.
Pas pour Vincent, mais en tout cas pour le reste des familles, on est plutôt avec des gens qui vivent avec des petits revenus, qui ont passé soit pour certains beaucoup de temps en IEF, donc en instruction en famille, c'est-à-dire qui ont fait l'école à la maison. Et puis on est sur des basses ou moyennes, je veux dire.
Oui, parce qu'il faut avoir les moyens quand même pour vivre en IEF, pour vivre la situation IEF.
Alors moi, je ne vais pas pouvoir parler de l'IEF parce que je n'ai pas du tout connu l'IEF. Par contre, je peux répondre pour... parce que c'est quand même un des arguments souvent qui est renvoyé à toutes les personnes qui sont en école alternative, oui, mais ça coûte cher. Moi, je ne le fais plus maintenant, mais je l'ai fait à une époque parce qu'à un moment, ça m'a un peu fatiguée d'entendre « oui, mais ça coûte cher ». Parce que déjà, la plupart des parents qui sont là sont des gens hyper investis, hyper bénévoles, qui passent un vrai temps pour faire des événements à côté, pour faire rentrer des sous pour l'association. Ça tombe pas du ciel, c'est du temps, c'est des heures, c'est des week-ends, c'est des soirées de réunion, c'est tout un tas de temps. J'ai la sensation qu'au sein d'une structure, en tout cas les deux structures auxquelles moi j'appartiens, pour lesquelles auquel je participe, j'ai la sensation dans mon souvenir que, et toujours à l'heure actuelle, qu'en fonction des revenus, du temps disponible des uns, des unes et des autres, le puzzle s'est toujours organisé pour que chacun puisse y trouver sa place. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, est-ce malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours des gens qui ont donné plus en temps, il y a des gens qui ont donné moins. Et tout ça s'organise. Voilà. J'ai la sensation que, en tout cas, nous, on a eu aussi régulièrement plusieurs fois des familles qui ont eu des moments où elles n'avaient plus la capacité financière de payer et où il y a eu tout le temps des caisses de solidarité qui se sont mises en place, où on a créé des événements pour les soutenir. Et donc, en tout cas, nous, notre expérience in situ sur le terrain depuis une dizaine d'années... m'invite et nous invite, j'espère, à sortir des généralités et à voir qu'avec chaque famille, il y a tout un parcours. Et quand tu parlais d'éthique, je peux te rejoindre à cet endroit-là. Il y a tout un parcours, soit de rebond, comme pour toi, Vincent, qui quitte une vie différente et qui essaye autre chose. Il y a des gens pour qui ça date de 6 mois, il y a des gens pour qui ça date de 5 ans, il y a des gens qui, comme moi, sont nés dans une famille où ces questions-là étaient déjà existantes. Et donc, tout ça, après, apprend à vivre ensemble et à faire ensemble. Et je pense que chaque situation est très singulière et qu'on a tout à gagner à garder ces singularités pour ne pas se séparer et que le discours qui fait des généralités, pour moi, tend plutôt à nous séparer et à ne pas nous comprendre.
Parce qu'on est généralement dans un silo et on ne sait pas comment vit... n'importe quoi, le technicien de radio, l'informaticien, l'infirmière, ou des choses qu'on ne sait pas de quoi ils parlent.
Alors, par expérience, cette question-là de la sociologie des groupes est toujours la question la plus complexe. Et comme elle n'a jamais d'études, on est souvent sur des ressentis, autant moi d'ailleurs que les gens qui y sont invités. Ce serait intéressant, je pense, d'avoir des vraies études sur la sociologie, les moyens des gens, parce que, en toile de fond, moi je pense que les gens qui sont dans les systèmes alternatifs, c'est une généralité, hein, à chaque fois ils viennent d'un même milieu, et c'est pas forcément un milieu financier, c'est souvent un milieu culturel et éthique.
Alors moi je peux dire que je suis pas d'accord avec ça. Je pense que je pourrais dire qu'il y a peut-être une moitié qui répond à ce que tu dis. Moi, dans mes souvenirs et dans mes observations, pour moi, il y a aussi, je dirais, entre un tiers et un quart des familles qui arrivent et qui ne s'étaient jamais posé ces questions-là avant et qui vont se retrouver avec un enfant dit phobique scolaire qui va être harcelé, ouais, ou qui va avoir vécu des problématiques relationnelles tellement douloureuses qu'ils vont commencer à aller chercher ailleurs. Et c'est en faisant ces recherches qu'ils vont tomber sur nos existences, mais ça ne part absolument pas de questionnements politiques, éthiques, ça part d'une réalité directe avec leur enfant.
Et là, dans votre collège, là, c'est ce qui se profile, c'est quoi la sociologie des élèves ?
Alors, moi, je tiens à prendre soin d'eux et à garder une certaine confidentialité, mais en tout cas, je peux partager le fait qu'il y a certains élèves qui ont vécu des problématiques relationnelles fortes de harcèlement, qui ont vécu des problématiques fortes de phobie scolaire. On a aussi reçu des familles qui cherchaient à s'inscrire chez nous et qui ont trouvé quelque chose plus près de chez eux. Mais je peux dire que l'année dernière, j'ai reçu un certain nombre de familles dont les enfants ne retournaient plus en cours, qui ne sortaient plus de leur chambre, qui avaient vécu des choses très douloureuses relationnelles avec un prof, par exemple, et qui ne mettaient plus les pieds en cours. Et ça fait partie des familles qui, dans une vision globale politique, n'avaient jamais eu vent et n'avaient jamais été intéressées par nos structures. Et l'autre type de public qui aussi vient s'inscrire, me semble-t-il, dans nos structures, pour lesquels il n'y a pas tout ce background, ce sont aussi des gens qui vont arriver à la campagne, par exemple, et qui n'avaient pas vent ou connaissance de nos structures, qui les découvrent et qui, tout à coup, ont une curiosité par rapport à ça, mais qui ne sont pas arrivés là en premier pour ça. Et ouais, à l'inverse, il y a des gens aussi, par exemple, avec les girafons. Le village, nous, avant qu'on arrive, il était complètement mort. Enfin, pas mort, pardon, mais en tout cas, il était... Il avait peu de vie, il y avait plein de maisons vides, etc. Il y a plein de gens qui sont venus s'installer pour l'école, et de fait, tous les hameaux se sont retrouvés, et le bourg avec un papa de l'école, voilà, qui a racheté le café qui était fermé depuis 20 ans, etc. Donc il y a, pour moi, il y a vraiment une multiplicité quand même de parcours, et ça c'est hyper important, et ça reproduit une certaine mixité sociale.
Ouais.
Et après, je vais ajouter une autre chose par rapport à ça, parce que ça fait aussi souvent partie des mythes qu'on renvoie aux écoles alternatives, qui serait qu'il n'y ait pas la même mixité sociale, probablement, peut-être. Mais c'est assez intéressant d'entendre, par exemple, Franck Lepage, qui raconte toujours cette petite anecdote que moi j'ai toujours gardée en tête, que si on observe pendant une journée ou une semaine des maternelles en école publique, au bout de 3 heures, on va voir celui qui va dire le waf waf pour le chien, celui qui va dire le chien, celui ou celle, et puis celui ou celle qui va dire le... je sais pas quoi, moi je connais pas ton chien, le Yorkshire, ouais, ou je sais pas quoi. Et là, les catégories sociales qui ne se mélangent pas ou qui sont visibles existent de façon terrible, et on sait bien que malheureusement l'éducation nationale vient très peu casser ces reproductions. Donc, moi j'ai la sensation que ces questions-là, où qu'on aille, où qu'on soit, elles ont, en tout cas nous, notre souhait c'est de les regarder et d'essayer de les aiguiller autrement, mais je pense que c'est un peu une naïveté ou un mythe qui manque de point d'appui, de croire qu'on ne vit que dans l'éducation nationale, il y aurait une mixité sociale incroyable qu'on ne trouverait pas au sein des écoles alternatives. Ouais, je pense que c'est important de mettre de la conscience.
C'est tellement vrai que pardon, je te coupe, Malou, mais le dernier résultat de PISA dit que la France n'est pas capable de casser ses
codes. Cette reproduction sociale.
Voilà, tu es fils d'ouvrier, tu seras ouvrier. Tu seras fils de chef d'entreprise, tu seras chef d'entreprise. Et ça, normalement, c'est le creuset de l'éducation nationale qui dit ben, on va pas faire de la méritocratie, parce que ça ne fonctionne même pas non plus, mais on va casser et on va trouver des gens qui sont compétents à la place qu'on leur assigne ou qui veulent prendre. Et ça, Pisa l'a dit, on est capable. On n'est pas capable en mathématiques. On perd des places de plus en plus. On perd des places en français, on perd des phrases en compréhension. Donc c'est aussi simple que ça.
Il y a pour moi une phrase un jour que j'ai entendue de Coluche, que je garde de façon très précieuse, qui a dit, je pense que c'est une réalité, je n'ai pas retrouvé la source, mais en tout cas l'idée, elle correspond tout à fait aussi. Aux écoles alternatives, en parlant des Restos du Cœur, il a dit quelque chose du type « j'aurais tellement aimé qu'on n'existe pas ». Ouais, et moi, je peux dire vraiment la même chose pour les écoles alternatives. Moi aussi, vraiment, j'aurais préféré qu'on n'existe pas.
Et c'est ça que l'État devrait financer. On va se faire une petite pause avec un morceau que vous avez choisi qui s'appelle « Allegria » du Cirque du Soleil, c'est ça ?
C'est ça.
RLP.
Shining, alegria. I hear young men's voices.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Retour sur l'alternative avec nos deux invités, Malou et Vincent. Alors, on va replonger un peu dans cette idée d'alternative. C'est quoi qui fait l'alternative chez vous ?
C'est le courant.
Mais il y a un constat peut-être au départ que vous faites. On a commencé à en parler dans la première partie.
Il y a beaucoup de tiroirs à ouvrir. Je dirais peut-être le premier, le lieu qui nous accueille. C'est-à-dire que le collège a ses locaux au sein de l'écocentre du Périgord, qui est le premier écocentre de France, qui a une vingtaine d'années. De façon très concrète, ça veut dire que les jeunes sont aussi dans des locaux qui sont en terre, qui sont en paille, qui sont en bois. L'organisation spatiale, elle vient déjà raconter quelque chose en termes de relations, en termes d'organisation entre les jeunes.
C'est vrai que si on faisait les cours dans une fusée, le seul objectif, ce serait d'atteindre la Lune. Là, c'est de rester terre à terre.
Je ne sais pas si c'est terre à terre.
Mais c'est intéressant, oui, de recapter.
En tout cas, il y a quelque chose dans l'organisation, ça me semble-t-il, et dans le lieu qui nous accueille, qui a aussi une identité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le lieu dans lequel on est n'est pas qu'un collège. Le lieu dans lequel on est a aussi un lieu d'accueil du coworking, donc il y a des gens qui passent, il y a une kiné qui travaille là, il y a des cours de Qigong, il y a de la danse le mercredi, il y a des activités pour enfants.
C'est un lieu de vie.
C'est pas un lieu de vie, c'est un lieu d'activité, et à côté il y a un éco-hameau, mais en tout cas c'est un lieu où quand les jeunes sont en pause, ils croisent et ils voient d'autres personnes. Et
d'accord.
Ça pour nous, le fait que les choses... Que nous sommes du monde et nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes avec le monde, c'est quelque chose qui nous semble hyper intéressant et important à l'âge de l'adolescence où tout à coup la cellule familiale, c'est pas que ça va bien, mais en tout cas c'est important d'aller voir un peu le reste du monde, ce qui s'y vit. Donc cette chose de ne pas être cloisonné qu'entre élèves, à mon sens...
Il y a une société école au sein d'une société d'adultes.
Il y a quelque chose d'important. Ça c'est la première chose.
C'est intéressant, ouais.
La deuxième chose, c'est que au sein de notre emploi du temps, je parlais tout à l'heure au Girafon du fait qu'on avait réfléchi à une pédagogie qu'on a appelée corps cœur tête. Au ricochet, cette pédagogie se poursuit. Comment ça se vit ? Ça se vit dans l'écriture de l'emploi du temps. Donc, par exemple, le lundi matin et le vendredi après-midi, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture de la semaine, se passent avant tout avec l'accueil des émotions, qui consiste en... Moi, je propose des petits jeux théâtre où on est avec un bâton de parole et puis chacun, chacune raconte avec quoi... Nous, on appelle ça nos pépites et nos nœuds, arrive et partage ce avec quoi il arrive. On ne va pas parler de la même façon à un élève qui a passé son week-end à s'engueuler avec ses parents ou qui s'est séparé de son petit copain ou de sa petite copine. On ne va pas lui parler de la même façon que s'il a passé le samedi soir avec sa bande de potes à jouer à je sais pas quoi, un jeu vidéo ou à aller faire des cabanes ou peu importe, en tout cas s'il arrive avec du plein ou avec du vide. Et accueillir les jeunes, c'est avant tout les accueillir dans leur vie émotionnelle qui, à l'adolescence, on le sait en observant comment se développe le cerveau, et à un moment, tout explose. Donc l'accueil émotionnel, c'est la chose la plus importante qui se passe avant d'ouvrir quoi que ce soit d'autre. Le vendredi, on termine aussi par ça. On consacre 2 heures, c'est énorme dans un emploi du temps comme le nôtre. On consacre le dernier créneau du vendredi à ce qu'on appelle un conseil de jeunes, qui vient aussi tout à fait de Freinet et du conseil qu'il faisait avec les enfants, où nous sommes deux à co-animer, avec Mélanie qui est thérapeute pour ados. Et donc toute la semaine, dans la salle de classe, il y a une boîte aux lettres et les enfants ont différents formats de papier, couleurs de papier, sur lesquels ils peuvent écrire des choses. Ils peuvent écrire ce qu'on appelle leur pépite, c'est-à-dire qu'est-ce qui les a vraiment mis en joie, leurs nœuds. Et puis il y a aussi les idées. Donc ils mettent tous ces petits papiers dans la boîte et le vendredi, on ouvre la boîte. L'une de nous deux lit tous les mots pendant que moi je fais autre chose, par exemple, avec eux. Et puis ensuite, on va traiter plusieurs sujets. Tiens, moi, le plan de classe en ce moment, il ne me convient pas, j'ai envie de changer de place. Ok, pourquoi vous êtes à cette place ? Qu'est-ce qui peut être évolutif, etc. Et si, par exemple, il y a aussi, ça c'est arrivé il y a quelques semaines, s'il y a une remarque d'un prof qui a laissé quelque chose d'un peu souffrant chez un élève, on va rejouer la scène. Donc, c'est ce qu'on appelle le théâtre forum, qui vient d'Augusto Boal, du théâtre de l'opprimé, et l'idée c'est on va décrire la scène, ensuite on va la faire jouer par 2 élèves avec la situation qui ne nous convient pas, et puis ensuite on va faire appel à l'intelligence collective, à la créativité, et puis on va chercher, tiens, qu'est-ce que ce personnage il aurait pu faire autrement, et on va le jouer 1 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui apaisent le groupe, qui nous permettent à nous, les adultes, ensuite de faire remonter ça aux profs et de faire des propositions. Parce que l'idée, c'est de pas du tout être dans une posture de consommateur, ce qui peut être un danger quand on arrive dans un endroit où on nous écoute et où nos parents payent. Et ça, c'est absolument pas l'idée et le projet. C'est-à-dire, quand on dit « si tu t'opposes, propose ». S'il y a quelque chose qui ne te convient pas, c'est pas « ah, ça ne me convient pas, je ne suis pas content, et puis fais pour moi ». S'il y a quelque chose qui ne te convient pas, on cherche ensemble. Parfois, ça prend une séance, parfois, ça en prend 4 mois. L'année dernière, pour faire le ménage au groupe, ça a été un travail très, très long, de dire comment on prend soin du lieu dans lequel on vit tous les jours. Ce n'est pas d'autres personnes qui viennent le faire pour nous. Il y a tout un tas d'étapes, mais ça, pour moi, c'est aussi quelque chose de très important dans qu'est-ce qui fait la différence.
Et ben ça, tu vois, à nos amis enseignants, éducateurs, on va dire, de la communauté éducative, voilà ce qu'on appelle la pédagogie. Une idée avec une grande intention, un outil et une utilisation. Tu viens d'en faire la démonstration juste avec la voix. C'était assez intéressant. C'est ça, la pédagogie.
Et c'est l'appropriation par les élèves, surtout.
C'est pas la copie de fonctionnement avec du non-sens par-dessus. C'est vraiment une intention, un outil clair que l'on peut transformer s'il ne fonctionne pas bien, avec une utilisation et un retour des gens qui l'utilisent. C'est ça, la pédagogie. Merci pour l'explication. Autre petite question. Il y a une autre légende. Alors, je vais encore faire l'avocat du diable, histoire d'ouvrir un débat d'une demi-heure. La légende de « c'est difficile pour un élève de s'adapter quand il vient d'une école alternative, de se réadapter ou de s'adapter à l'école publique s'il doit y retourner ». Est-ce que vous avez des retours là-dessus ? Est-ce que vous avez aussi cette même légende ?
La réciproque est vraie, certainement. Quand tu passes de public à alternatif.
Et je l'ai mise dans mes questions. Hein. C'est difficile pour qu'ils s'adaptent.
Moi, je peux témoigner public, alternatif. Après, alternatif, public, je ne sais pas. Moi, je me pose déjà la question pour mon fils donc, qui est en quatrième et qui va donc dans 2 ans aller en seconde.
Au lycée, oui.
Et en seconde, comment il va faire le pont ? Bon, voilà, j'ai 2 ans pour y répondre.
Mais est-ce que tu as eu des gens avec qui tu as pu échanger là-dessus, des retours d'expérience ?
Pas encore. Mais j'ai Malou à côté de moi.
Et toi, Malou, est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus ?
Alors, oui, j'en ai. Et ils sont divers. Voilà, c'est-à-dire que...
Est-ce qu'ils sont compactés sur Internet et qu'on puisse aller les voir ?
Alors, c'est plutôt le fruit d'un certain nombre de lectures différentes. Et puis quand j'étais en IUT, j'ai fait mon mémoire sur les écoles alternatives et je suis allée interviewer aussi un certain nombre de personnes qui étaient devenues adultes et qui avaient fait leur scolarité plus ou moins entière en école alternative. Par rapport aux personnes adultes que j'avais interviewées, le souvenir que j'en ai, c'est que globalement, ça s'était plutôt très bien passé. Qui avait une capacité à relationner qui était assez simple. Et il y a des choses qu'on n'apprend pas de façon générale et qui nous manquent quand nous sommes adultes. Et il y a des choses qu'on apprend en ce moment dans notre type de structure et qui, me semble-t-il, sont pour lesquelles on n'a pas encore un grand recul. Par exemple, la communication non violente de Marshall Rosenberg, ça a 20 ans.
Je prends un petit point un petit peu plus précis pour entrer dedans sur la performance du travail qui est demandé dans l'éducation nationale, qui est très grande. Il faut quand même l'histoire des devoirs à la maison. Est-ce qu'elle va pas mettre à mal ? Est-ce que ça, c'est pas une des premières difficultés qui sur lequel on pourrait avoir un retour réel ?
Si on veut vraiment qualifier la performance, on a PISA, on a les classements de Taïwan, on a plein de standards internationaux où on voit sur une longue période que l'éducation nationale française a tendance à perdre quand même des places, et on n'est pas au niveau des Jeux Olympiques quand même, de l'éducation. Donc je préfère la robustesse parce que on ne sait pas au sens d'Olivier Hamant, c'est-à-dire que la robustesse, c'est mieux que la performance, parce que la performance, c'est une compète, c'est 100 mètres, alors que...
Oui, mais dans ce fait que l'école publique est comme ça aujourd'hui, je suis assez pour les intentions que vous défendez, mais dans le fait que l'école publique fasse ça.
Moi, je peux répondre là où j'en suis dans ma compréhension des choses et dans mon expérience, donc partielle et limitée, et en cours toujours. C'est pour moi, par exemple, dans les conseils de jeunes, dans les idées et les demandes que les jeunes font, qui ont, par exemple, pas mal surpris certains profs, certains élèves demandent des notes, puisque nous, au Ricochet, il n'y a pas de notes. Et donc, il y a eu presque, pas de la résistance, mais quelque chose de l'ordre de l'incompréhension, où ça venait pas s'inscrire dans le cadre que nous, adultes, on avait pensé. Et finalement, en tout cas, notre dernière journée de travail pédagogique aux vacances d'octobre, là, on a eu un temps là-dessus. Et ce qui a été décidé, c'est que c'est possible de faire du « et ». Et je pense que très souvent, ce qui est important, c'est de faire du « et ». C'est-à-dire que pour chaque copie, là, par exemple, en début de semaine, ils ont eu des retours d'interrogations en espagnol et puis une rédaction en français. La plupart d'entre eux n'avaient... Moi, ma fille, elle n'avait jamais eu de notes, par exemple. Elle a fait toute sa scolarité au Girafon. Et tout à coup, la note, ça devenait une expérience un peu incroyable. Et puis, ça permet, quand on est dans le reste du monde, d'avoir des points d'appui qui permettent de relationner avec les élèves qui sont en public.
Bah oui, des relations, oui.
Et je pense que nous, en tant que porteurs, porteuses de ce genre de structure, c'est très important qu'on ait en conscience... qu'un des besoins en CNV qui est le plus important à cet âge-là, c'est le besoin d'appartenance. Et donc, les jeunes, dans nos structures, ils sont à cet âge-là, en tout cas, ils sont dans un double mouvement, presque contradictoire, qui est en même temps le fait d'appartenir à quelque chose d'alternatif, et ça, ils en ont bien conscience, et en même temps, il y a aussi ce besoin à l'adolescence qui est hyper fort de faire partie du monde. Et du coup, je pense qu'à cet endroit-là, pour que nos projets fonctionnent, on doit aussi avoir une capacité à co-créer et à rester souple, c'est-à-dire en même temps tenir notre cap de notre projet pédagogique et en même temps, si avoir des notes, par exemple, et ça répond à ta question, tiens, si je retourne à l'école publique et que j'ai déjà vécu d'avoir quelques notes, ben ça, par exemple, c'est un pont. S'il y a des élèves qui ne veulent pas de notes, ils n'auront pas de notes. Ils auront des appréciations, ils auront des
marqueurs pour évaluer, voilà. et évoluer.
Et ça, c'est ça pour nous, c'est vraiment c'est quelque chose d'important. Quand on nomme la co-construction, par exemple, là, elle est clairement incarnée dans cet exemple super concret que des élèves ont voulu des notes. Bon.
Je vais couper pendant 2 minutes ce que tu viens de dire. Je vais l'envoyer à l'Éducation nationale. Là, s'ils arrivent eux à s'adapter et à faire du et. Peut-être qu'il y a un moment...
Mais ils doivent, ils savent s'adapter. Hein.
Parce qu'ils ont retiré les notes, mais ils ont mis des couleurs.
Oui,
donc ils ont trouvé des... Voilà, ils fuient le vrai sujet, c'est courage, fuyons, le fameux... Ok, alors, est-ce qu'il faut être initié pour rentrer dans une école alternative ? Toi qui es parent, Vincent, c'est plus facile pour tes enfants de passer du public au privé ou l'inverse ?
Ah, j'ai pas envie que t'appelles ça privé.
Ah, privé. Non, alternatif. Ouais,
associatif.
Ouais.
Associatif.
Non, franchement, pour moi, ça...
Alternatif.
Le but du jeu, c'est... Moi, mon fils, il était frustré quand il allait voir son prof de maths, parce qu'il devait... Le prof de maths, il avait un planning. Mon fils, il voulait dire, voilà, j'ai appris quelque chose, j'ai pensé à un théorème. Oh, mais j'ai pas le temps. Et là, il se retrouve au ricochet en disant, moi, j'ai inventé quelque chose, est-ce que tu peux vérifier, etc. Et le prof, il dit, mais c'est génial. Du coup, initié, il n'y a pas d'initiation. Il y a de l'éducation.
Mais c'est plus facile de fait, apparemment, de ce que tu viens de dire. C'est plus facile de passer du public à l'alternatif.
Ouais, mais je pense que le passage de l'alternatif au public, il est passé. Il est facile aussi, puisque du coup, ils ont une construction mentale que n'ont pas les autres. Donc, ils s'adapteront mieux. Moi, je fais le pari de ça.
J'aimerais tellement qu'il y ait des études
c'est
sur
le, les le pari de Pascal, sujets. Le pari de Pascal.
Ouais.
Moi, j'ai envie d'ajouter à ça que dans notre systémie, dans l'organisation hebdomadaire de la classe, il y a toujours en classe un prof et une coordinatrice, Léa ou moi. Et dans ce qu'on présente aux jeunes quand ils rentrent au collège, l'idée, c'est que s'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui devient plus vivant que le cours lui-même, c'est-à-dire plus vivant, plus envahissant, on va dire, nous, on est toujours là et disponible pour vous écouter. Et juste, En tout cas, pleinement offrir un temps d'écoute, sans jugement, d'être là.
C'est immédiat.
Sinon,
du coup,
c'est immédiat.
C'est immédiat,
sinon,
c'est pas dans 3 jours.
Ouais. Effectivement.
Et vous ressentez, Simon qui est à la régie, là, il veut retourner au collège. On va faire une autre petite pause.
Ah, moi aussi, j'aurais adoré être collégienne avec les profs.
Ah oui. Voilà. Ah, je sais pas, je les connais pas les profs, mais dans une école qui propose ça. Deuxième pause sur un morceau qui s'appelle « Jouer du soleil au petit bonheur ».
Radio Libre en Périgord.
La citadelle, je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpin, joli soleil, joli soleil.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
De retour avec nos deux invités, Malou et Vincent. Donc, on va rentrer un peu plus dans la réflexion de l'école publique et l'école alternative. Est-ce qu'il y a concurrence ou pas ? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure.
Il n'y a aucune envie de se positionner en termes de concurrence. Évidemment, pour moi, on est, j'allais dire, malheureusement, une offre complémentaire. Voilà. Mais non.
Autre question, alors. Oui. En société, quel impact ça peut avoir de monter des écoles alternatives en parallèle de l'école publique ?
Quel impact pour les élèves, pour les parents,
la société dans sa globalité, vous pouvez cibler les élèves, vous pouvez cibler les familles.
On ajoute une couleur à l'arc-en-ciel.
Voilà, c'est super, je suis d'accord.
ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, moi, par exemple, exemple tout simple, j'ai eu l'habitude de recruter des gens, ils pensent la même chose au même moment, mais la même chose. C'est-à-dire qu'en subdeco, en école supérieure de commerce, on t'apprend à avoir des réflexes, et donc, du coup, on pense la même chose. Donc, on a 20 personnes qui ont la même idée au même moment.
Les robots.
Sauf que, du coup, dans la stratégie, il n'y a pas une bonne stratégie. Il y a des stratégies, et tu vas choisir une stratégie. Et cette stratégie, elle te dit si c'est oui ou si c'est non. Et en fait, c'est une forme alternative de résolution de problèmes, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des autistes Asperger dans des structures, dans des entreprises, parce qu'ils vont voir le petit truc que tout le monde n'a pas vu et que finalement c'était ça, en fait.
Dans une société parfaite, ça serait quoi l'école ?
On sait depuis 50 ans, en long, en large et en travers, il y a des dizaines de générations d'étudiants, d'étudiantes qui ont par toutes les portes d'entrée décrit tout ce qui dysfonctionne. Voilà, la reproduction des classes sociales, tout le problème de mémoire, le manque de plaisir. On en a des kilos de disponibles. Par contre, de se donner les moyens. Et pour moi, le moteur est, est une des réponses que j'ai envie de faire sur qu'est-ce que ça apporte dans une société. Ça apporte, c'est pas une troisième voie, c'est ça apporte plein de troisième voies, plein d'autres voies. Et ça, Damasio le dit, entre autres, je veux dire, d'inventer d'autres imaginaires, de proposer d'autres récits, d'autres choses sur lesquelles on puisse se projeter, qui sont pas les discours de masse. Moi, j'y vois là une voie de sauvetage. Pour moi, la fonction de créer des espaces alternatifs, que ce soit une école, une association, un lieu de spectacle, des stages artistiques partagés, etc., leur fonction, c'est de nous faire goûter les ornières. Leur fonction, c'est de nous faire prendre les chemins de traverse et de voir qu'il y a d'autres paysages à l'intérieur de nous, quand on ne les remplit pas par les masses médias, et à l'extérieur de nous, quand on sort des autoroutes de la
donc
pensée.
Donc l'image de l'école, ce serait ça, de nous montrer du nouveau, des ornières, ce serait ça.
Non, ça c'est la fonction pour moi que ça vient remplir au niveau sociétal, de créer des lieux alternatifs. Par contre, qu'est-ce que serait pour moi une école idéale à ce jour si on avait les moyens? Les pleins moyens, parce que là je peux quand même visibiliser que toutes les personnes qui travaillent chez nous sont des personnes militantes, il y a des gens qui sont bénévoles, tout le monde est avec des tout petits salaires, tout le monde travaille comme des dingues pour être là, on est sur une classe triple niveau.
C'est à signaler, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les salaires des enseignants sont très très bas. Ils sont au niveau du SMIC.
Comme au Girafon et comme dans toutes les structures alternatives, tous les gens qui sont là parce qu'ils portent une vision d'un autre monde. Je ne sais pas, c'est un peu fatigant de le répéter depuis autant d'années, mais en tout cas, de fait, c'est notre réalité. Voilà.
Ah, mais cette question éthique, elle est très importante dans l'éducation. Ce que je posais en entrée de l'émission, là, la question de l'éthique et des gens qui composent ces milieux-là avec leur éthique est très, très importante. Elle est très influente, d'ailleurs, dans les virages que prennent l'alternative.
Elle est incarnée parce que de toute façon, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les concours de CAPES, d'AGREG, de CRPE, enfin de professeurs des écoles, on recrute les inscrits, en fait, parce qu'on en cherche 100 et ils en présentent 50. Donc, on va vous prendre, en fait.
On ne prend pas les penseurs, tu veux dire.
Comment ?
On ne prend pas de penseurs.
Je ne sais pas, mais en tout cas...
C'est moi qui ai orienté.
C'est militant et je trouve que c'est malheureusement qu'ils viennent chez nous, quoi. Enfin, on peut dire ça. Ils ont préparé un concours. Oui, c'est ça. Ils ont préparé un concours qui est quand même extrêmement exigeant. Le CAPES, l'AGREG, quand tu as une AGREG de physique, c'est quand même exigeant. Ils font l'AGREG de physique, on leur donne pas le minimum pour travailler. Je transpose ça dans une société privée, j'ai pas les moyens de travailler, je pose le marteau et puis c'est terminé, je travaille plus, quoi. Et puis j'ai une grève, c'est tout, c'est fini.
Alors, la place des familles dans les décisions, là, dans l'assaut, je vais revenir un peu sur l'assaut. Quelle est la place des familles dans les décisions? Vous avez parlé un peu de l'organisation, mais dans les décisions?
Moi, je peux te répondre, si tu veux. Alors, nous, on est en année 2, donc c'est notre seconde rentrée cette année. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est au démarrage de quelque chose qui devient vraiment associatif. C'est-à-dire que et je peux aussi le partager par rapport au Girafon, entre le moment de création d'une association avec un groupe noyau, avec ce qu'on appelle des personnes sources, c'est-à-dire les personnes porteuses au démarrage de l'énergie, de l'intention et de la créativité, et puis après tout le système qui va venir le rejoindre, y adhérer et puis ensuite trouver sa place, tout ça met un certain temps à se mettre en place. Cette année, on a quand même la joie d'avoir une grande partie des familles qui a pleinement pris en conscience cet enjeu, qui a conscience de cet enjeu, et qui donc là, de façon très récente, ça fait quelques semaines, l'avant-dernière réunion, je pense, on a créé des groupes de travail qu'au Girafon on appelle des voiles, qu'on peut appeler comme on veut, en tout cas qui sont des groupes pour tous souffler, faire avancer le navire et que chacun souffle dans sa voile. Donc il y a une voile comme celle dans laquelle tu es...
Il a appelé ça des cellules tout à l'heure, Vincent. On était ça la DST, des...
tu sais, c'était sexy, la DGS. Je sais pas, des voiles, c'est bien.
Et en tout cas, l'idée, c'est que chacune de ces voiles puisse... Donc là, par exemple, c'est très chouette, il y a deux mères d'élèves qui viennent de, qui sont en train de prendre le relais d'une autre personne fondatrice qui était trésorière, qui est en train tout doucement de sortir de cette part-là du navire et qui, elle, est prof d'art plastique. Voilà, donc là, pour nous, c'est très joyeux d'avoir quelque chose de très concret qui est en train de s'horizontaliser dans le sens que, pour moi, un collège ou n'importe quelle structure alternative, elle tient quand les charges et les forces sont réparties et que la conscience de tout ce qu'on doit apporter ensemble est portée par toutes les familles.
Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors, Marinette et Blandine en ont déjà parlé et je trouve intéressant l'honnêteté de dire bah, au départ... On annonce une asso, ça n'en est pas une en fait, c'est des gens qui portent le projet, qui tractent, qui mettent en place pour qu'on arrive à un fonctionnement d'asso. Je trouve que c'est très honnête parce que ça enlève un peu l'espèce de tout parfait voilà, qu'on pourrait avoir dans des discours.
Au démarrage, une association, c'est une idée et quelques personnes. Et puis elle faut qu'elle soit, il faut qu'il soit solide ce noyau et ces quelques personnes. Et moi, j'espère et j'aspire et j'ai la sensation que là, il y a quelque chose il y a des points d'appui qui sont en train de se mettre en place pour la suite du collège. Ouais.
Est-ce que le féodal n'est pas le départ de la démocratie?
RLP.
C'est la pédagogie institutionnelle, ça.
Exactement, de Ferdinand Houry.
Ah,
merci pour cette référence.
Ouais. Pour moi, il y a trois étapes. Il y a le moment de la fondation, de la création, les années 1, 2, 3, par exemple. Et puis après, il y a quelque chose qui devient... Il y a un fonctionnement qui se met en place. Et puis ensuite, il y a toute cette culture de la gouvernance partagée qui est quand même aujourd'hui...
diffusée,
voilà,
prise.
Qui s'apprend. Qui ne se décrète pas, mais qui s'apprend. Et pour moi, il y a une troisième étape que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui va au-delà du cercle. C'est-à-dire que pour moi, dans ma compréhension probablement limitée de la gouvernance partagée, dans un cercle, il y a quelque chose où chacun, chacune était à égalité. Et à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose ou qu'il manque quelque chose, ou peut-être j'ai pas tout bien compris, qui est que si par exemple on est né dans une famille où depuis 20 ans on se tape la serpillière à 2h du mat après la fête de l'école parce que les parents sont dans l'amicale laïque, ou si c'est la première fois qu'on est dans une association, et après évidemment il y a tout le faisceau entre ces deux points-là, on n'arrive pas pareil dans le cercle.
Exactement.
Si c'est ce que tu parlais tout à l'heure de culture d'éthique,
ouais.
Et il y a une autre, et j'arrive pas à retrouver le nom précis, je crois que c'est gouvernance spiralaire. Il y a encore une autre forme de gouvernance dont j'entends parler depuis pas très longtemps, qui garde le même principe que le cercle, mais qui prend, et apparemment chez les peuples premiers, chez les peuples très anciens, il y avait aussi cette notion de cercle. Et en plus, je ne vais pas dire « mais », je ne veux pas faire de « ou », et en plus, il y avait des fonctions qui sont importantes à tenir, comme par exemple les gens qui vont être gardiens de la mémoire. Donc en fait, gardiens de la mémoire, aujourd'hui, on appellerait ça ceux qui vont être garants de tenir le projet initial. C'est-à-dire qu'un club de foot ne va pas devenir un club de basket, par exemple. Il y a des fonctions comme ça, très importantes, qui ne nous empêchent pas d'être en cercle, mais qui, me semble-t-il, sont nécessaires pour quelque chose de pérenne. Et tout ça, on ne l'a pas non plus appris. Nous qui sommes des adultes, on ne l'a pas appris. Moi, j'ai 46 ans, je ne l'ai pas appris quand j'étais à l'école. Donc je cherche, donc on se plante, donc on y arrive, donc on fait trois pas en avant, on en fait deux en arrière, on se blesse, on célèbre, on avance, et en même temps, c'est merveilleux. Et les élèves des Ricochets vont vivre cette expérience parce que justement, est-ce que eux ils peuvent apprendre beaucoup plus tôt que nous quelque chose qui nous n'existait pas quand on était ado, et donc là ils vont faire cette expérience là et on avait envie d'avoir deux délégués qui allaient pouvoir devenir l'interface accompagnée d'un adulte, mais néanmoins l'interface avec les gens responsables de l'éco-centre pour parler de notre vie co-partagée. Et l'idée, c'est qu'une fois par mois, il y ait deux élèves du collège qui soient ces délégués-là, qui viennent avec moi ou avec ma collègue coordinatrice pour parler avec les gens de l'association. Ah. Et donc là, de façon très concrète, c'est un premier outil de gouvernance partagée, mais on a envie de continuer là-dessus. Et que cette horizontalité, ce cercle, ça s'apprend, ça se décrète pas.
Et on fait du français, et on fait du français, on fait de la dissertation, on organise sa pensée, on écrit bien, sujet, verbe, complément, pour que la personne comprenne, et on refait le lien sur ce qu'on a appris en français, en fait. Et donc, du coup, on interprète ça.
On habite la cité, quoi.
Oui, on habite la cité, ouais. On est des citoyens.
Vous m'avez donné un starting block pour une autre question, qui était la place des enfants dans le fonctionnement de l'école. Donc là, tu en as parlé un petit peu. Il va y avoir des délégués qui vont pouvoir renvoyer aux gens de l'assaut. Est-ce qu'ils ont une place dans l'organisation de l'école? Est-ce qu'ils peuvent changer des choses?
Oui, ce que je te disais tout à l'heure. Au conseil de jeunes, il y a la possibilité de déposer des idées. Et donc, ces idées, elles sont... Là, par exemple, il y a certains jeunes qui avaient envie d'écouter de la musique le midi, mais il n'y a pas de portable. Donc, comment on fait? Donc, on a passé presque une heure et quart à réfléchir avant les vacances. OK, si on appelle un MP4, OK, comment ça se passe? Donc, on a coécrit avec eux tout ce qu'on a appelé la recette du MP4, qu'on est en train de terminer, qu'on va envoyer aux parents. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait un triptyque, en tout cas que c'est tripartite, et qu'il y a les profs qui donnent leur avis, les parents qui donnent leur avis, les élèves qui donnent leur avis, et tout ça co-décide ensemble. Donc là, les élèves ont envie d'écouter de la musique, sauf que tiens, il y a la Wi-Fi dans l'éco-centre, donc est-ce qu'avec un MP4, si on ne fait pas attention, ils ne vont pas se retrouver sur Internet? Donc, il y a quel genre de MP4 on peut faire venir? On a déroulé tout ça avec eux, et là, on a un texte, et le texte, nous, les coordinatrices, on va le taper, on va l'envoyer aux parents, on va attendre d'avoir les retours des parents. Les retours des parents, on va les transmettre au sein du conseil de jeunes, et on a avance comme ça, jusqu'à ce que tous collectivement, tous toutes, on acte un choix.
Allez, une des deux dernières questions, histoire de vous relâcher de notre cellule à nous. Comment on s'inscrit chez vous?
Eh bien, pour s'inscrire chez nous, donc déjà, le collège, il est donc au sein d'un lieu qui s'appelle l'écocentre du Périgord, qui se situe dans la commune de Saint-Pierre-de-Frugy, donc c'est au nord du département. Il y a beaucoup de systèmes de covoiturage. Les gens, ils viennent jusqu'à 40 minutes. Les familles qui viennent du plus loin, elles font 40 minutes de route. Non, il y a même là une famille qui n'a pas encore déménagé, qui fait une heure et demie de route. Bon, c'est un peu fou. Mais néanmoins, leur fille est bien là où elle est. Et donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas mettre en branle toute leur vie en deux mois. Donc, pour l'instant, c'est le choix qu'ils font. Je disais ça parce que le covoiturage dans des milieux comme les nôtres, des milieux ruraux, c'est hyper important et ça fait partie des choses qu'on encourage. Et puis pour entrer en contact avec nous, vous pouvez nous écrire un mail à un autre collège tout attaché @protonmail.com ou vous pouvez appeler au 06 66 25 98 26. Et puis à partir de là, on crée une rencontre, on prend un premier temps de visite, on vous présente le projet pédagogique. Votre enfant peut venir, si ça a été le cas d'Étienne, Vincent, peuvent venir faire plusieurs journées d'immersion pour rencontrer les élèves, rencontrer les profs. Voilà, on organise aussi des portes ouvertes quasiment tous les mois à partir du printemps. Et puis, je crois qu'on fait vraiment un peu de la couture sur mesure, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction des envies, des besoins...
Et des questions,
voilà, vous répondez. On est là, on est disponible et puis on continue à co-créer ensemble.
Très bien. On arrive à la fin de cette émission. Avant de vous remercier d'avoir été présent, est-ce que vous voulez dire un dernier mot aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent?
J'avais envie de simplement dire venez nombreux, on s'amusera encore plus à faire de la gouvernance partagée.
D'accord. Malou?
Moi déjà j'ai envie de vous remercier de nous accueillir parce que je pense que une des choses qui pourrait être très soutenante pour nos structures, c'est d'être visibilisée. Moi, il y a plein de moments où je suis en cours avec les élèves et où je vois des moments qui sont des pépites, qui sont des choses incroyables qui, me semble-t-il, au-delà de nous, de nos personnes, du lieu où on est, sont juste, à un moment donné, je sais pas, comme quelque chose qui fleurit, qui montre que c'est possible de faire autrement et où on voit l'intelligence relationnelle qui se met en place, où on voit de la coopération entre les élèves, et c'est pas un fantasme d'adulte de gauche, c'est pas un idéal idéal dans le sens qui n'a pas de lieu, ça a un lieu. Voilà. Et le lieu, en ce moment, sur cette expérience, sur cette chose qui continue à se créer, ça se passe au Ricochet, mais ça se passe à plein d'autres endroits en France. Et pour moi, une des résistances les plus importantes à ce jour, elle passe par nos créativités locales. Voilà. Donc soyez les bienvenus pour venir nous rencontrer si vous le souhaitez.
Ça a été un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci aux éditeurs, aux auditeurs pardon, et aux auditrices de nous écouter. J'espère plus nombreux. Une colonisation se met en place de notre part parce qu'on vient de mettre une nouvelle antenne pour aller un peu plus loin encore, pour être entendu et visibiliser les actions comme les vôtres. Merci à vous d'être venus.
Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.
L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout et moins de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.